Thank you. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Allô.
Oui, je parle comme ça. Bonsoir. Je suis heureux de jouer ici à Lausanne. On vient de jouer tous les disques, tous les morceaux de notre nouveau disque qui est sorti en octobre chez ECT. Le premier, c'était Timeless Dreams.
Il marche très très bien ce micro, oui, Annie. Oui. Il marche très très bien. Tu n'as pas l'impression, parce que tu n'as pas de retour, mais ça marche. Le micro marche, mais tu ne te rends pas
compte. Ok, oh, ah, c'est beau, c'est beau. Oui, ouais, ça marche très bien.
Hi, you can sing, okay. Contre basse. Harry Sokal, Jojo Mayer, départ.
Ça marche très bien, merci beaucoup. Et on vient de jouer un morceau qui est dédié à Mingus, c'est un grand bassiste, Charles Mingus. On vient jouer un autre morceau qui s'appelle, oui, c'est très spécial, il faut, oui, c'est les pinces. Et on dit le groove des pinces, Chlupli groove en suisse allemand. Et on va commencer, et non, pas commencer, on vient de commencer, on va terminer ce premier set avec un morceau qui s'appelle 3 im Quadrat. C'est un terme de la mathématique et je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est avec Harry Sokal, Jojo Mayer et Harry Kenzig à la basse 3 im Quadrat.
Et tout ceci est dans Jazz sur Espace 2. Thank you. Tout ceci est pratiquement en direct dans Jazz sur Espace 2. C'est en direct dans Jazz sur Espace 2. Harry Sokal, saxophone ténor et soprano. Jojo Mayer, batterie. Aïe Kenzie, contrebasse. Départ! Alors arrive le moment toujours extraordinairement difficile de l'interview qui va se faire, parce que c'est la seule langue qu'on parle les quatre, en japonais. Ça vous va? Non, ces gens parlent toutes les langues possibles et imaginables. Jojo nous a dit tout à l'heure que c'était l'anglais qui était le plus simple. Il est depuis une vingtaine d'années à New York. Harry lui parle un peu toutes les langues. Sure? You speak every language?
I'm sorry, I don't speak any French, but everybody welcome.
Alors on va passer d'une Sprache à l'autre. Hein? Ouais. Et j'aimerais quand même savoir comment vous vous êtes rencontrés. Il y a un point d'ancrage, some of a really like a root for you, which is probably the Vienna Art Orchestra. Mais comment vous êtes-vous rencontrés? How did you meet, you three gentlemen, something like 22 or 23 years ago?
Oh, we meet about much longer before. We meet about, I would say...
32 years.
Yeah, 32 years. And it started in a little jazz club in the first district. And it's called Jazz Kitty.
Vienna.
And there was apartment where Harry Kenzig lived and Matthias Röhrig lived. And we jammed in the day and we jammed in the night. And we formed bands. 32 years.
Alors, il y a 32 ans, l'appartement de Harry était propice à la jam session avec un certain Matthias Röhrig, avec Harry Sokal. Et puis alors après, il y a eu le petit jeune qui est venu, the little youngster who came around.
Jojo. Jojo, that was
La much... Jojo.
That was much later. We had a band before, it was called Timeless. Harry, me, Uli Scherer and Jordi Studli. And later we, like I would say, in which year it was, Harry? Which year?
85, 84, we just wanted to get a band
you
together,
in
trio.
Voilà,
84, oui, on voulait faire une trio ensemble, une autre chose sans instrument harmonique. On a cherché un batteur, on est tombé sur Jojo. Parce qu'il était à Zurich à ce temps-là. Moi, j'étais pas passage quelques fois à Zurich parce que j'ai vécu à Vienne. Mm-hmm. Mais je le connais, comme ça on a commencé à jouer, on a fait un disque pour Meurs Music, après on fait un deuxième disque. On a joué jusqu'à 92, après on s'est séparés, Jojo est allé à New York, moi j'étais allé à Paris pour l'orchestre national et tout ça, on s'est séparés et on s'est retrouvés à 2 ans.
Qu'est-ce qui a fait que vous trois avez eu envie de jouer en trio ensemble? Et je vais peut-être demander à Jojo, quand on lui a demandé de jouer avec vous trois, avec vous deux, comment est-ce que ça s'est passé et quel type de musique vous aviez en tête? What kind of music do you think you had in mind when the three of you started playing in trio? Because sometimes it's just totally free or sometimes it might have a relation with something that you liked before.
You mean originally? Yeah. Originally. Well, I think we all are... We like to play music together that has energy, and we try to play music that has a sense of authenticity to it. And when we met for the first time, it was kind of like different. I think it was the energy that brought us together, kind of like Harry was one of the first saxophone players that I, when I was young and had a hot head, I could climb that big mountain and it would not stop, so I could keep on climbing. So that was good, you know, like I had resistance, a big rock to climb as a drummer. Harry's a very strong rhythm player. So I think it was that, but most of all, I think, you know, it is something that is not attached to a certain style or a certain genre. It was just a certain energy in life that we try to express, and when we play together, some things happen that sometimes are good. Yeah.
Alors l'idée au départ c'était d'une énergie et d'une certaine authenticité. Il n'y avait pas tellement de style dans cette musique-là. C'est l'idée, c'était d'avoir envie de faire de la musique ensemble. Et l'idée aussi que la musique qu'Harry Sokal arrivait à mettre sur pied était comme une espèce de montagne le long de laquelle on pouvait grimper. Puis ça montait toujours plus fort et toujours plus haut parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire monter une progression de groove et d'énergie et que par conséquent c'était très agréable. On va demander à Harry quand même parce que le fameux triangle d'un ténor, d'une contrebasse et d'une batterie est une grande référence depuis un certain Sonny Rollins. Et c'est un truc particulier. Est-ce qu'il avait ça dans l'esprit ou est-ce qu'il voulait tout de suite faire autre chose? Don't worry. When you started that trio, there is a very strong reference looking towards Sonny Rollins, for example. I mean, tenor, bass and drums. Did you have a little click of the eye around towards Sonny or it was just a personal adventure that you wanted to create?
Actually, at that time when we started to play, I mean, I come out of the school of John Coltrane and I started many, many years and I still study John Coltrane. And
il étudie toujours certain, Alain Morisot, c'est la traduction yeah, de...
A certain style, certain style of John Coltrane in a certain year where he played all this modal music, like music on one scale, with very energy. And I had this, I played this before, and I was also in the band of Art Farmer, and he always took me down and said, Harry, you play too long. You play too long, Harry. You have to stop, you know.
Art Farmer, play softer, you know. Harry,
and finally, we had this, Harry had this idea of the trio. Did you mention it, that we wanted to make a trio with Freddy Studer, and Freddy Studer broke his arm. And then Harry asked Freddy Studer, who can make this job? Who can make this trio? This with this strong bass player and strong saxophone. And he said, Jojo Meyer is like a young horse. And I remember the first rehearsals and the first gig was so incredibly loud. I had an amplifier with 1,200 watts for monitoring. It was full. Full. This drummer. Alors, I think he felt the same way. He thought, wow.
Voilà, alors ils se sont tout de suite compris très très bien parce qu'il y avait effectivement une énergie formidable. L'énergie, effectivement, pas la force, pas la puissance. Alors il a raconté l'histoire de ce trio qu'ils avaient envie de faire avec un batteur. Freddy Studer s'est cassé le bras et Harry Kensig a parlé de Jojo Meyer en disant c'est l'homme qu'il nous faut. Les premières répétitions, premiers concerts sont magnifiquement passés, sinon que c'était effectivement un volume sonore assez intense et que lui, malgré un amplificateur, passait largement, enfin non pas largement, juste la barrière des 100 décibels. Mais bon, ça c'est pas très c'est anecdotique dans la mesure où effectivement il y avait de la musique. Ce qui m'intéresse dans le jeu de Harry Sokal, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier. Il y a à la fois des références à Coltrane et peut-être maintenant à Michael Brecker, qui est à peu près son contemporain d'ailleurs. Et puis il y a aussi des saxophonistes un petit peu plus charpentés. Harry, in your playing, there are at the same time something like traces of Train naturally, of people like Brecker, who are almost the same age as you. And there are some guys like... For example, you may be surprised, Jimmy Forrest. People like, you know, heavy, fat tones like that, because you like fat tones.
Oh, yeah, I like Gene Ammons.
Right, Jack.
That's fat tone, Gene Ammons. I like Sonny Stitt, who had a little lighter tone.
But. Yeah. So it's a mixture, you're conscious of that.
Yeah.
Voilà.
Bon. And the Chicago saxophone players like Johnny Griffin.
Von Freeman.
Van Freeman, yes.
Voilà, donc c'est un mélange.
A lot of the classics, old saxophone players I really like, yeah.
Voilà, et Harry Sokal est donc un mélange de ces influences-là, qui sont contemporaines, et de gens qui avaient une sonorité un peu plus large, qui étaient plus ancrés dans le classicisme, et qui, bien sûr, sont des gens extrêmement importants. C'est quelqu'un qui a d'avoir une grande connaissance des instruments, aussi des anges. On a passé un très joli moment tout à l'heure. Ainsi qu'avec Jojo Meyer, qui a dit tout à l'heure, quand on était à table, quelque chose d'étonnant. Il a dit « Le jazz est mort quand Trey Brown est mort ». You said that a little bit earlier. You said a certain way of playing jazz died when Ray Brown died.
Well, okay. Of course, it's a matter of definition of, of what you believe jazz is. Like, my personal opinion, and that's my personal opinion, is that the most important and the most important and creative time in jazz was between 1923 and 1962, or so 1963. It was the first 30 years of jazz.
That makes 40.
That's when jazz was interesting music. If you compare the last 30 years to the first 30 years, it's kind of embarrassing. It's like, you know, it's what Louis Armstrong did and Fletcher Henderson and then Duke Ellington and Charlie Parker and John Coltrane and Miles Davis. This period of creativity kind of stopped in the 60s, and everything that came after was an echo of this. And then people like Jimi Hendrix took the fire that John Coltrane or that Louis Armstrong passed on to John Coltrane and many other people. Then at some point Jimi Hendrix took it, and then at some point you know, the Beatles and the Rolling Stones and those people took it, and later on Kraftwerk took it, and then later on hip-hop took it, and later on DJ culture took it, and electronic music. Those were the styles that had the same output and innovation, like inventiveness, that jazz used to have. Jazz now is like classical music. It doesn't matter that it's bad music. It's not. It's still good music, but it's not as meaningful as it used to be during the first 30 years. Like, now you have to go to other styles if you want me to hear music that is connected to what is going on. If you look outside of the window and you observe the world, it's not jazz anymore.
Alors, le jazz n'est plus tout à fait ce qu'il a été. La période la plus créative, on est d'accord sur les 40 premières années, en fait, entre 23 à peu près 62, des quantités de musiciens qui ont set the pace, qui ont ouvert le chemin, ouvert la voie. Ensuite, c'était d'autres activités. Et puis surtout, lorsque Coltrane et puis après Jimi Hendrix ont repris le flambeau, eh bien, c'était une autre manière de jouer. Désormais, il y a beaucoup de musique qui se matine et qui se patine de différentes choses. Et par conséquent, c'est une autre manière d'envisager le jazz que vit Jojo Mayer, qui lui d'ailleurs joue dans beaucoup d'orchestres différents, avec des DJ, avec de la musique électronique aussi. Et c'est peut-être un des rares orchestres dans lesquels il joue de manière acoustique. On va demander à Eric Hensi, qui par exemple joue dans le trio de Terry Lang, qu'on connaît bien, quelle est la différence d'investissement physique ou musical? Qu'est-ce qui se passe comme différence dans la tête et dans les doigts?
Tu viens de dire c'est physique.
Ouais.
C'est physique, tu viens de dire ça, c'est... Pour moi, c'est une musique très physique. Il faut jouer. Je ne peux pas seulement monter l'ampli, il faut jouer physiquement.
Non, heureusement.
Non, c'est rien d'autre. Je joue très fort. La contrebasse, c'est vraiment un autre challenge. Ouais. C'est une musique très physique pour moi et j'adore ça, jouer. C'est un autre côté de mon âme, comme tu veux dire. J'ai l'autre côté, mais ça aussi, un truc qui me plaît beaucoup. Enfin, totalement, c'est une autre fonction de jouer la basse aussi. C'est rien à voir. C'est deux mondes différents pour moi.
Qu'est-ce que le rôle du bassiste est très important, bien sûr, dans une formation comme celle-ci, parce qu'il doit faire oublier le fait qu'il n'y a pas de guitare ou pas de piano, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on s'en fiche ou bien...
Oui, je m'en fiche, j'ai jamais pensé à ça, de faire oublier quelque chose.
Oui.
Non.
Non, mais c'est là, tu as à la limite un double rôle. Tu as le rôle fondamental, de l'homme qui pose les fondamentales des accords, ou, etc., qui doit quand même montrer le chemin au saxophoniste, qui doit faire suivre la voix rythmique au batteur. Mais en même temps, il faut quand même faire entendre un peu une harmonie. Donc tu as un double rôle.
Oui, oui, mais...
Ouais,
qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Je ne m'ai jamais demandé. Moi, je pense qu'on joue la musique en fonction que tu es là-dedans, et ça change. Ouais. Et intuitivement, tu essaies de faire le mieux, comme ça sonne le mieux possible. Et je ne me fais pas des pensées. Si je joue un blues comme un jouet, je joue beaucoup plus simple. C'est clair, je joue beaucoup plus simple. Je fais les fondamentales. Si je joue avec un blues, je ne fais pas les fondamentales tous les jours parce que je me planais en-dessus. Je ne fais pas ça. Ça se range, ça, tu as raison. Mais...
Qui est le contrebassiste qui t'a fait envie de faire de la basse, hein, Eric Hensi?
Qui a fait mon don, oui.
Qui est
C'était la bassiste de mon frère qui a joué la batterie.
Ah là 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 là.
Mais j'étais 15 ans. Ah. Oui, mais c'est très simple.
Annette, si tu nous entends. Ok. Très bien. Je vous remercie beaucoup, gentlemen. It's a pleasure to have you here tonight. live en Espace 2. Et les premiers morceaux, donc il y a eu un hommage à Charles Mingus. Il y a eu les compositions ont été mélangées de chacun d'entre vous.
Oui, on jouait le club, les groupes, avec le pain, c'est un truc qu'on nous trois.
Ouais.
Mais les trois premiers morceaux, c'était moi.
Le compliment que j'ai à vous faire par rapport, il y a un disque qui est sorti, c'est à la fois pour les spectateurs qui sont là, pour les auditeurs qui sont en train d'écouter Espace 2. Le disque est absolument magnifique, qui vient de sortir sur la marque Act. Il a eu d'ailleurs des chocs, en fait, ce qu'on appelle le choc en France, c'est-à-dire des marques, des distinctions d'honneur honorifiques. Et c'est un disque qui est splendide. Et chaque morceau a une caractéristique pour moi importante, c'est qu'il n'en a pas. C'est-à-dire que chaque morceau sonne comme le groupe. Each song sounds like the group, whatever or whoever the composer is, which is to me one of the most beautiful trademarks you can have in a group. Thank you. Et c'est comme quand on entend une note d'un musicien, on dit voilà. Et quand on entend Harry Sokal, quand on entend Jojo, quand on entend Airi, ce sont des gens qui ont leur propre marque, leur propre trace et leur propre empreinte. Et pour ceci, je les remercie infiniment d'être ici ce soir. Thank you very much, gentlemen.
Merci.
Thank you.
Voilà. Et maintenant, eh bien, on va continuer tranquillement avec une deuxième partie qui va être, bien sûr, extrêmement punchy. En vous rappelant aussi que Jazz, eh bien, c'est une émission tous les soirs de semaine. Ils vont comprendre parce qu'ils pensaient qu'il y avait une petite pause là, mais vous savez, des fois, c'est la barrière des langues. C'est pas grave, ils vont revenir, rassurez-vous. Pendant ce temps, vous regardez, vous qui êtes ici, vous regardez les photos. Et c'est là, vous voyez, monsieur Sonny Rollins avec Adam Nussbaum ici. Ça, c'est le vieux trombone à piston de Jean-Pierre Beltrami, qui est absolument magnifique. Ça, c'est un vieil enregistreur, ça se fait plus beaucoup, mais enfin, dans Jazz, on l'utilise encore de temps à autre. On a les vieilles bandes. Donc, pour vous dire que Jazz, eh bien, c'est une émission de Jazz sur Espace 2, tous les soirs de 22h40 à minuit, que demain soir, c'est Yvan Malherbe qui prendra le micro et qui sera à cette antenne, que vendredi soir, vous aurez droit. D'ailleurs, vous retrouverez Eric and Sieg, on diffusera ce qui avait été diffusé le 16 décembre dernier, dans le cadre du 50e anniversaire à la fois d'Espace 2 et du pianiste Thierry Lang, et c'était le set qui comprenait le formidable tromboniste Glenn Ferris. Vous aurez de très belles choses à déguster vendredi soir. Et puis dimanche prochain, on verra. Lundi prochain, on verra. Consultez le site internet de la RSR et allez regarder sur Jazz Espace 2. Et vous verrez que vous y découvrirez de très très belles choses. On est donc en direct dans Jazz sur Espace 2. Eric Hensick, contrebasse. Jojo Mayer, batterie. Harry Sokal, saxophone soprano et ténor. Thank you.
On vient de jouer aussi un morceau de notre nouveau disque, Magic Transition, c'est de Harry Sokal. On vient de faire One for Eddie Hu, Eddie Hu, Eddie Hu. C'est qui Eddie Hu? One for Eddie Harris. Et on continue avec un autre morceau qui s'appelle Another World, Une Autre Monde.